That was the freedom bell. To remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
L'apéro. L'apérophonie. Le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophonie. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Plus Grenoble, 90.
L'apérophonie.
L'apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau volet de l'apérophonie en ce 1er juillet, il est 18h. Et ce soir c'est une apérophonie un peu spéciale puisque on va pas vous parler de culture locale, mais on va vous faire un petit retour d'expérience, un gros retour d'expérience parce que c'est quand même une année de travail sur une résidence journalistique sur un territoire que les Grenoblois connaissent mal et pourtant il n'est pas si loin, aux frontières du département de l'Isère. Clémentine Métanier, bonjour.
Bonjour Émilie, merci de votre invitation.
Et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste indépendante et vous avez passé 6 mois à mi-temps dans le territoire de Bièvre-Valoire, ce large territoire entre Grenoble et Lyon, juste avant le Nord-Isère.
Oui, alors on n'est pas sûr si c'est encore le Nord-Isère, j'ai encore jamais trop su, mais on est quand même dans le Nord-Isère, sur cette zone-là.
Très bien. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est d'être journaliste indépendante et surtout, quel est votre parcours pour commencer ?
Alors, journaliste indépendante, alors on utilise indépendant parce que c'est bien vu de dire indépendant, on dit aussi freelance, mais c'est aussi le mot, le jargon journalistique, c'est de dire pigiste. Donc je suis journaliste, je ne suis pas affiliée à un seul média, mais je travaille pour plusieurs médias. Donc je suis basée à Grenoble, c'est ici que j'habite et c'est de là que je trouve mes idées de reportage. Voilà, alors, c'est un peu plus compliqué que ça dans les faits, le travail de journaliste est complexe, il faut trouver des idées et puis il faut trouver des médias pour qui les vendre. Et donc, je fais aussi surtout de la radio. Voilà, donc je travaille surtout pour des antennes nationales, internationales, locales parfois. Et donc, je travaille sur des sujets entre le local et l'international.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler justement sur le local et qu'est-ce que cette expérience internationale apporte dans votre travail au local ?
Alors, on dit local, international. En fait, on est aussi un peu tributaire de nos idées et de des médias qui prennent nos idées. C'est pas si... je pense comme plein de journalistes, un carnet avec plein d'idées parce qu'une rencontre dans le train, par exemple, ou bien un sujet qui nous tient à cœur parce que aussi on suit des sujets sur au long cours. Moi, je suis intéressée par les problématiques de société, sociétale, etc. Donc en fait, c'est aussi en habitant dans un lieu qu'on rencontre des gens, on a des idées, mais ensuite ces idées, il faut les vendre. Et c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'aime bien aussi. Je voyage beaucoup sur le continent africain parce que je suis intéressée par la jeunesse africaine. Je suis intéressée par les problématiques de l'avenir du continent. Et c'est vrai qu'on se dit bon, finalement, quel est le lien on peut se dire avec Grenoble ? Est-ce qu'il faudrait ? C'est tout le débat. Est-ce qu'il faut qu'un journaliste habite sur un territoire pour y travailler ? C'est un débat finalement que je me pose tous les jours aussi. Et c'est important de ne pas habiter sur le territoire ou bien d'avoir un regard extérieur. Donc oui, c'est questionnable d'aller en tant que journaliste français sur un territoire africain, de débarquer juste pour 2 semaines pour un reportage. N'empêche que, voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est aussi préparer des sujets, arriver sur le terrain. Et j'aime aussi le local, j'aime aussi travailler sur les choses qui m'entourent. Moi je suis grenobloise, donc au bout d'un moment, c'est vrai que je connais bien le tissu associatif, par exemple, ou je m'intéresse de plus en plus au massif, par exemple, aux questions de l'environnement. Et bien en fait, des liens sont faisables entre les sujets que je peux faire à l'étranger, les sujets que je vais trouver en local. Donc finalement, les frontières sont assez poreuses et ça qui est beau dans le métier, c'est de réussir à faire des liens. Donc on va y venir, mais cette résidence, elle avait du sens aussi pour moi d'être vraiment impliquée sur mon territoire, on va dire, en tout cas le territoire auquel j'appartiens, pour aller proche des gens et pour leur expliquer mon métier. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un sujet que vous avez pu faire à l'international pour qu'on se rende bien compte par rapport à ces résidences journalistiques et aux sons qu'on va entendre, peut-être voilà, nous donner un exemple de votre travail à l'international.
Alors par exemple, bon, le plus récent où je suis partie, c'est en Bosnie, l'été dernier, travailler sur la question des barrages hydroélectriques. Alors à chaque fois quand on part à l'étranger, on compare par rapport à ce qu'on sait de la France par exemple, mais travailler aussi sur la jeunesse africaine, alors que moi j'ai beaucoup d'amis ou dans mon entourage, je m'intéresse aussi à la question de la diaspora, et ben ça a du sens parce qu'en fait, alors c'est pas forcément lié au territoire, hein, la notion de territoire elle est complexe parce que comment on fait pour partir d'un sujet, qu'est-ce que le territoire, on va en parler là dans cette émission, c'est quoi le territoire, qu'est-ce que ça veut dire. Mais voilà, par exemple je suis partie il y a 2 ans suivre des jeunes africains du continent qui se retrouvaient avec la diaspora africaine vivant en France pour parler de l'avenir du continent africain. Voilà, typiquement le genre de sujet que j'ai pu faire de suivi et de en radio.
Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger.
Merci beaucoup Clémentine Métainier. Aujourd'hui, ensemble, on ne va pas parler de l'international, mais on va bien parler du local. Vous avez pu exercer sur un territoire pendant une année entière, sur une résidence journalistique d'éducation aux médias. Finalement, l'éducation aux médias, qu'est-ce que c'est ?
Alors, sur une année scolaire, on va dire, hein, de janvier, même un peu moins que scolaire, depuis janvier, en fait, 2019, le début de l'année 2019, je suis effectivement sur le territoire, alors à mi-temps, hein, 2 semaines par mois, de la Bièvre-Valoire, donc vraiment ce territoire entre Lyon et Grenoble, qu'on traverse par l'autoroute ou bien mais qu'on connaît, hein, parce qu'on va y venir, je vais vous donner des détails, mais c'est la Côte-Saint-André, c'est une ville qui est connue, qui est proche des Grenoblois, hein. Et l'idée était, en fait, de répondre à cette demande qui émane du territoire pour intervenir dans un cadre scolaire plutôt auprès des jeunes mais aussi des habitants du territoire pour apporter voilà des éléments sur mon métier, sur le métier de journaliste, sur le métier de l'information, sur, alors on parle d'éducation aux médias, moi je préfère parler de sensibilisation aux médias, c'est-à-dire à quel moment c'est important, pourquoi c'est important aujourd'hui de donner des clés de compréhension pour lire, pour écouter, pour regarder la télévision à l'heure où, vous le savez hein, Émilie, les médias sont décriés. Je crois que la confiance est au plus bas depuis quoi, une trentaine d'années aujourd'hui par rapport aux journalistes. Donc c'est aussi cette volonté de l'État, hein, qui émane aussi de l'État français, de redonner des éléments de compréhension et de complexité du métier de journaliste à l'heure où aujourd'hui bah, on a besoin de l'information.
On parle aussi de fake news.
Effectivement. Alors c'est aussi pour ça hein, qu'on, de plus en plus, c'est d'ailleurs rentré dans les programmes scolaires, à partir de la 4e, l'éducation aux médias, parce que avec tout ce flux d'informations et de plus en plus aussi, oui, l'apparition de fausses informations, de fake news, alors ça aussi c'est compliqué. C'est vrai que souvent les professeurs ou les instituteurs me rentrent par la résidence, par cette entrée-là, on va dire, me disent, voilà, nous, on a besoin de travailler les fake news avec les élèves parce qu'ils ne croient plus rien et ils ont du mal à savoir qu'est-ce qu'une bonne, qu'est-ce qu'une mauvaise information. Donc c'est vrai que ça, c'est important.
Pour donner un exemple, on va écouter un extrait d'Éducation aux médias avec un jour, une actu.
Sœur, ça veut dire quoi, ça ?
Pourquoi c'est comme ça ?
C'est où ?
C'est qui, lui ?
Un jour, une question.
À quoi ça sert de s'informer ? En France, il existe différentes façons de s'informer. Radio, télévision, journaux, internet. S'informer, c'est être au courant de ce qui se passe autour de chez nous, dans notre ville, dans notre pays et dans le monde entier. Mais à quoi ça sert ? S'informer peut permettre de prévenir la population d'un danger. Par exemple, en cas d'accident, de tempête ou d'attentat. Quand les médias informent d'une tempête, cela permet d'éviter de sortir et de se mettre en danger. S'informer, c'est aussi découvrir. En apprendre plus sur ce qui nous entoure. La nature, le fonctionnement de la Terre, c'est se cultiver. En suivant les informations sur Thomas Pesquet dans l'espace, on découvre sa vie dans la Station Spatiale Internationale, ainsi que la Terre, vue de l'espace, et la pesanteur. S'informer, c'est connaître l'actualité en France et dans le monde. Les événements sportifs, les catastrophes, comprendre ce qui se passe. Cela permet de mieux saisir le fonctionnement de notre pays et de notre société pour être de bons citoyens. Mais attention, on doit toujours être vigilant vis-à-vis des informations que l'on entend. Certaines sont sûres, d'autres ne sont pas vérifiées par des professionnels, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Ce n'est pas du journalisme. alors que les vraies informations permettent d'échanger et de se faire ses propres opinions sur les sujets d'actualité.
Vous êtes toujours dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. On vient d'écouter un extrait d'Éducation Média, un jour, une actu. Clémentine Métainier, qu'est-ce qu'on vient d'entendre exactement ?
Alors là, si tous les enfants qui écouteront cette émission vont comprendre hein, de quoi on parle, un jour une actu, moi j'ai découvert, hein, c'est des bons outils pédagogiques, c'est des petites vidéos très pédagogiques qui parlent d'un sujet, et c'est vrai que là, il explique à quoi ça sert de s'informer, c'est quoi en fait s'informer, et c'est la base. Alors c'est pas évident hein, quand on est journaliste de revenir à cette base-là finalement, parce qu'en fait c'est ce qu'on nous demande, c'est de revenir à une base, c'est quoi en fait l'information, effectivement, pourquoi on s'informe, et c'est pas facile de répondre à cette question face à des jeunes qui se disent finalement on n'a pas besoin de s'informer. On va à l'école tous les jours, on a nos copains, pourquoi s'informer ? C'est des vraies questions. Donc ça donne des clés aussi de compréhension, ces petits outils pédagogiques.
Ou alors on s'informe sur Facebook aussi et sur les réseaux sociaux.
Ouais. Pas mal. Alors après, les jeunes que j'ai rencontrés, collégiens, lycéens, ils ont conscience que c'est pas la base de l'information, qu'il faut aller vérifier l'information qu'on regarde sur les... Ils en ont conscience. D'ailleurs, parfois même plus, je trouve, que les adultes. Ils savent que YouTube n'est pas une chaîne d'information. Pour telle et telle raison, parce que voilà, ce ne sont pas forcément des journalistes qui délivrent une info, c'est un chanteur, c'est des gens qui vont parler, des gens lambda, des citoyens.
En leur nom.
En leur nom, donc ça c'est important. Donc finalement c'est ça aussi qui m'a agréablement surprise, c'est qu'il y a une conscience que les réseaux sociaux prennent de l'espace, et par contre qu'il faut aller vérifier l'information. La raison, c'est que la vraie question, c'est comment on le fait.
Cette résidence, c'est aussi l'occasion donc d'une rencontre avec un professionnel du journalisme. Quel était le projet de cette résidence ?
Alors moi, ce qui m'intéressait en fait, on parlait de la notion de territoire dans l'introduction, c'était ça. C'était un moment donné, en tant que journaliste, de venir sur un territoire, de s'approprier les problématiques du territoire et puis d'essayer de transmettre moi mes compétences, mon expertise de journaliste de manière assez simple, à travers des outils méthode de l'interview, pour parler de ce territoire. Donc moi, c'est la proposition que j'ai faite de partir d'un projet qui s'appelle « Je raconte mon territoire » et qui, dans les classes, permettait d'aborder la question qui est-ce qu'on va aller interviewer, quelles sont les caractéristiques de la ville où j'habite, aller interviewer la personne âgée, parce que c'est elle qui a l'expertise pour me parler de tel ou tel sujet. Voilà, moi l'idée c'était cette approche, j'allais dire un petit peu documentaire et non pas d'actualité et d'information, ce qui est peut-être était justement difficile parce que aujourd'hui il y a une forte attente de parler d'actualité ou de déconstruire l'actualité, et moi c'est pas mon approche journalistique, et puis également l'entrée radiophonique, voilà, vous l'avez compris, je fais de la radio et c'est ça que j'aime. Donc on a été j'avais armé de petits enregistreurs, j'ai parcouru le territoire pour donner la parole aux gens à travers les jeunes.
La collecte de la parole par le côté patrimonial finalement.
Ouais, c'est un peu ça.
Sur ce territoire, on parle des terres froides.
Terres froides, alors ça fait toujours sourire, mais en fait on connaît ce territoire beaucoup par ce nom-là, les terres froides. Moi je pensais que c'était péjoratif avant d'arriver là-bas. Finalement non, les habitants eux-mêmes parlent des terres froides. C'est qu'en fait c'est lié à l'histoire, j'ai pas énormément creusé la question parce que c'est compliqué, mais ça date de l'époque glaciaire, où il y a eu en fait deux grands glaciers qui se sont rencontrés dans le Rhône et dans l'Isère, et ce qui fait que c'est très plat, et que apparemment il y a un lien aussi avec l'eau, la nappe phréatique est très proche. Si j'ai bien compris, ce qui fait que ça a été des marécages pendant très longtemps, toute cette vallée. Et la Bièvre, je crois, vient du latin castor, voilà, qui veut dire qu'en fait, on est quand même sur du marécage, ce qui permet aussi de faire qu'il y a des grandes cultures, en fait, sur tout le territoire. Mais globalement, c'est plat.
C'est plat, comme à Grenoble, finalement,
oui.
Pour ceux qui nous écoutent.
Et c'est froid. Effectivement, en hiver, il y a des zones où c'est très froid, mais c'est lié, je pense, à la caractéristique géographique, morphologique du territoire.
Très bien. Quels sont les différents publics que vous avez pu rencontrer lors de ces résidences journalistiques ?
En fait, des publics très différents, puisque j'ai rencontré des petits de primaire, on va dire de CE1, CE2, jusqu'à des jeunes qui passaient le bac, donc de première, terminale, sur chaque territoire à peu près. Des collégiens, pas mal de collégiens, donc je vous disais à peu près de l'âge de quatrième, puisque c'est le moment où on aborde ça dans le programme scolaire. Et puis également des habitants aussi, en fonction des territoires. On parlera un petit peu des projets qui ont été faits avec des habitants. Mais sinon, globalement, public scolaire, parce que, encore une fois, il y a cette demande importante de sensibiliser à l'information et à l'usage des médias.
Mon mari et moi, nous étions tous les deux à la SNCF. Moi, j'avais une barrière et mon mari était cheminot.
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 en ce 1er juillet ou en rediffusion le 2 juillet sur campusgrenoble.org. Dans cette émission, Clémentine Messénier, vous nous prenez par la main pour nous emmener à la rencontre des personnes avec qui vous avez travaillé ces 6 derniers mois et des projets sonores qui en sont sortis. Pour commencer, nous proposons aux auditeurs de tendre l'oreille pour entendre un nouveau son des territoires. On se retrouve juste après ça sur Campus Grenoble 90.8.
En ce moment, on a 140 brebis. L'objectif, c'est de vendre 400 agneaux par an. Et on a une trentaine de bovins viande, enfin de bœufs ou de génisses, et puis j'ai 10 salaires qui vont veiller à l'automne, enfin l'hiver prochain, ouais, qui vont faire leur boulot l'hiver prochain. Je me suis installé en 89 avec mes parents, donc on a fait on appelle ça un GAEC, enfin un groupement d'exploitation, on était associés. C'était en 89, donc c'est un moment où dans les pays de l'Est, il y avait beaucoup de développement, enfin la Pologne, tout ça. Et il y a beaucoup de Français qui sont partis s'installer là-bas, et c'est quelque chose qui m'aurait plu. À un moment donné, voilà, je savais pas trop si je restais là ou pas, enfin si c'était viable surtout, parce que c'était très compliqué, c'est le début des quotas laitiers. Donc, dans quelques années, ça m'a passé par la tête d'aller m'installer dans des grandes fermes, voilà, ça m'aurait plu pour une époque. Après, j'aime bien mon territoire, voilà. La production qu'on met en place correspond tout à fait au relief et au territoire qui est ici. Autrement, le paysage est assez bien entretenu. On n'a pas de friche, on n'a pas de terrain abandonné. De ce côté-là, c'est bien fait. Les agriculteurs, pour le moment, sont assez conscients qu'il faut entretenir bien tout ça.
Aller à la rencontre du territoire, aller à la rencontre des sons du territoire, c'est aussi se confronter aux traditions et aux voix du territoire, et puis aux paroles aussi, ce qu'on appelle le patois.
Bon, allô.
C'est le chien de la maison ?
Je connais, oui.
Qu'est-ce que tu nous racontes de beau et entendre ? C'était pas vu.
Ben oui, oui, oui. Bon, non, mais on se voit quelquefois.
Oh, ben,
on s'aperçoit.
Oui, s'apercevoir vite fait. Salut.
5 minutes.
Ouais.
T'es toujours aux Antonins ?
Toujours.
C'est bien là-bas, c'est bien.
On est 100 et des poussières maintenant, ouais. L'association. Là.
Tu as fait des petits ?
On a des jeunes qui rentrent, bien.
Oui,
ça, c'est le but. Hein. Ouais. C'est de rentrer des jeunes, parce que nous autres, maintenant, on commence à se faire, comment on dit ?
Vieux.
Vieux.
Vous trouvez que j'ai un accent, moi ?
Ouais,
ah ouais, oui. Moi, je suis dauphinois, mais je suis enfin, Saint-Hilaire de la Côte. Voilà.
Lui, il a un bon accent. Bah,
c'est gentil, hein.
Décoiffé tous les...
Non, mais c'est bon.
Elles sont toutes remises en état.
La fiera du village en zoo de l'US soupira, que de vous dire n'a poume suspendu à un pommier, et que toute le fois qu'elle passe, elle veut me mordre de dien, elle me répondu un faille envers ce bravadin, elle me dit d'aller sifflant l'homme sur la colline, de l'atteindre avec un tout petit bouquet d'églantine, des massants le flûre et des sifflants, tant que des pus, des attendus, et des amènes bonnes, aïe.
Raconter un territoire par les sons de la nature, les sons d'ambiance qu'on appelle le field recording, mais aussi par ces langues étranges qu'on a peut-être entendues quand on était petit. Clémentine Métanier, vous nous avez livré sur Campus Grenoble 90.8 ces deux premières créations sonores. C'est un travail collectif. Dans quel cadre ils ont été réalisés ?
Alors là, nous sommes dans la Bièvre-Isère, donc la Bièvre-Valoire. Il y a 3 communautés de communes, dont la Bièvre-Isère, dont la capitale est la Côte-Saint-André. Et à la Côte-Saint-André et tout autour, il y a un festival qui s'appelle les Arts Allumés, chaque année, qui est vraiment le rendez-vous culturel du territoire, très réputé et très beau. Il se passe beaucoup de choses et c'est très participatif. Ça, c'est impressionnant. Il y a énormément de gens qui y participent. Et là, c'était avec des habitants, 5 personnes qui habitent le territoire, avec qui nous avons fait une exposition sonore. Donc des photos et du son. Donc il y avait différents thèmes, dont là on a entendu la nature et puis tradition. Et voilà, alors il faut savoir que c'est eux qui ont tout fait. Moi, je faisais le montage à la fin, mais je les ai guidés, je les ai aidés à préparer, je les ai aidés à trouver des informations, qu'est-ce qu'on veut faire, on affine le projet, et puis on est allé chercher ces sons. Voilà ce que ça donne.
On entend qu'on est sur un territoire rural avec une très forte identité.
Oui, effectivement, c'est vrai que pour ceux qui ont déjà traversé ce territoire, c'est des champs, hein, c'est beaucoup beaucoup de champs. Ce qu'on appelle l'axe de Bièvre, c'est une route qui n'existait pas avant, qui aujourd'hui, quand on sort de l'autoroute, nous emmène jusqu'à Beaurepaire. Mais jusqu'à présent, alors Beaurepaire qui est donc un des troisièmes territoires, mais jusqu'à présent, jusqu'à il y a 15 ans, il n'y avait pas cet axe de Bièvre, donc c'était compliqué de se déplacer. Mais effectivement, c'est magnifique. Hein. Moi, j'aurais pu prendre des photos, j'ai regretté à chaque saison, depuis janvier jusqu'à maintenant, c'est magnifique. Les couleurs sont très belles et c'est effectivement très rural. Il y a beaucoup de cultures céréalières, il y a beaucoup d'élevage aussi. Il y a des noyers, parce qu'on n'est pas loin du sud. Voilà, on a beaucoup aussi d'élevage laitier. On a entendu ça, un petit aperçu avec un éleveur qui parle de sa production de lait notamment. Et puis bien sûr, il y a les forêts autour, la forêt des Chambarans et les forêts de Bonnevaux.
Alors, est-ce que ce genre de projet avec des habitants sur de la création sonore, dont débute quand même un travail journalistique d'interview, est-ce que ça a été le cœur de votre résidence pendant ces 6 derniers mois ?
Alors, pas vraiment. En fait, ça a été plutôt un projet, j'allais dire, ad hoc, qui a été fait vraiment avec eux sur ce territoire, avec ces habitants. Mais sinon, non. Sinon, c'était beaucoup dans des écoles, dans des lycées, dans des collèges, à la rencontre de projets. En fait, ça dépendait un petit peu l'entrée qu'il y avait dans chaque établissement scolaire. Mais l'idée, c'est aussi de... Donc, ça dépendait. En fait, chaque projet qu'on va entendre, chaque petit son, c'est aussi le travail qui a été fait en fonction de mon temps d'intervention. Parfois 2 heures, fois 3, parfois depuis janvier, j'intervenais toutes les semaines. Voilà, il y a différents travaux. Et alors, c'est de deux sortes. C'est ce qu'on va écouter maintenant. Par exemple, un extrait d'une revue de presse. Là, on est dans un exercice journalistique très concret. Une professeure qui souhaitait, plusieurs professeurs, parce qu'il n'y avait pas que la professeure de français, qui souhaitait que les enfants travaillent sur la revue de presse. Alors, on écoute.
Bonjour à tous, il est 8h30 du matin. Nous sommes sur Radio Sport et tout de suite, la revue de presse. Aujourd'hui, les sportifs, nous allons parler de la Coupe du Monde féminine 2019, qui a lieu cette année en France. N'est-ce pas, Franck ?
En effet, grâce à la victoire de l'équipe de France de football masculin l'été dernier, les féminines sont prêtes à leur tour de remporter cette Coupe du Monde. Elles sont très motivées, comme on peut le lire dans le journal Le Monde, sorti le 8 décembre 2018. Un reportage de Marie Catoto, l'attaquante de l'équipe de France féminine, montre cette motivation.
Exactement, Marie-Antoinette Catoto est très motivée puisque cette jeune joueuse a raté sa Coupe du Monde avec les moins de 19 ans, mais elle aimerait se rattraper à tout prix pour son équipe et gagner la prochaine Coupe.
Alors, quelle est l'expertise que vous apportez quand on fait une revue de presse, justement, qui est quand même un exercice journalistique en soi? Quelle est l'expertise que vous apportez à ces élèves, finalement?
Donc là, on est au lycée de la Côte-Saint-André, où il y a ce lycée Berlioz, exactement, où il y a cette envie de la part des professeurs de les former, effectivement, à comment on va chercher une information et comment on la compare et comment on voit la manière de traiter l'information à travers les différents médias. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Les groupes étaient formés. Moi, à chaque séance, je suis intervenue 3 fois, 2 heures. L'idée était de les mener à chercher l'information et comment, typiquement sur Internet, voilà, pourquoi est-ce qu'on va aller chercher telle information sur Internet, comment elle est traitée dans le journal papier et dans le journal qui est en site, en ligne. Et puis, on se rend compte que quand on tape sur Google, on tombe sur plein d'informations, typiquement, là, sur le sujet que les jeunes traitaient. Il tombe sur plein de choses. La question, c'est comment ensuite on sélectionne. Donc moi, mon travail, ça a été de dire un journaliste, il est censé faire comme si la personne à qui il s'exprime n'y connaissait rien sur le sujet. Je vous donne les orientations pour trouver l'information et comment on la traite. Voilà. Et là, difficulté supplémentaire, vous l'avez entendu, ils sont passés par la radio. Donc il a fallu aussi qu'on fasse un petit travail d'écriture radiophonique pour ensuite s'exprimer de faire à l'oral ce travail de revue de presse, par exemple.
J'ai cru comprendre que vous avez passé une semaine à Saint-Simon-de-Bressieux pour l'élaboration d'un reportage collectif.
Alors Saint-Simon-de-Bressieux, effectivement, on n'est pas très loin toujours de la côte Saint-André et puis de Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre notamment. Et là, effectivement, une semaine en intensif dans un lycée professionnel d'enseignement agricole qui est spécialisé dans l'aide à la personne. Donc beaucoup de filles, hein, je crois qu'il y avait un seul garçon ou deux garçons dans la classe. Là, l'idée, c'est d'intervenir une semaine, donc 3 jours dans la semaine, et d'aboutir à la fin à un petit produit sonore. Donc là, on va écouter, chaque groupe choisit un sujet en lien avec l'établissement et donc on aborde l'histoire, on aborde l'interview à travers les professeurs, on aborde aussi les questions d'évolution des matières. Voilà, un exemple.
Nous sommes des élèves de première bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, et nous nous sommes intéressés à l'histoire de notre lycée qui s'appelait La Maison. Il n'était pas à l'emplacement actuel. Madame Buy, ancienne professeure qui a fait toute sa carrière dans le lycée, a pris du temps pour nous raconter son histoire.
En 1942, je crois que le cours ménager a commencé à exister. C'était une religieuse parce qu'il y avait un petit couvent. Il y avait 5 ou 6 religieuses, une qui s'est détachée pour enseigner aux jeunes du village, des filles de paysans en général, pour enseigner tout ce qui était pratique, couture, cuisine, les petits élevages et jardinage. En gros, c'était ça, repassage, entretien du linge. Avec les méthodes anciennes, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas à l'époque les machines à laver. Hein. Et au fur et à mesure du temps, les cours se sont améliorés. Le nombre d'élèves a augmenté. Je crois qu'au départ, elle devait être 6 filles. Moi, je suis arrivée à l'école en 58 en tant qu'élève. 4 ans après, je suis partie faire une formation. Je suis revenue enseigner en 1964. Oui. Et là, les cours avaient beaucoup été améliorés. C'est-à-dire qu'on était quand même passé avec du français, un petit peu d'anglais, de l'histoire, de la géographie, de la science, enfin biologie. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme matière? Puis sans oublier les anciens cours, c'est-à-dire cuisine, couture, repassage. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Jardinage, bien sûr. Petits élevages, car au vieux bâtiment, il y avait un poulailler.
Alors vous voyez, en donnant la mission à un groupe de jeunes d'aller rencontrer la plus ancienne professeure qui est toujours ici, qui vient pour eux, vous avez vu la qualité d'information, quand on parle d'information en général, hein, là ils apprennent plein de choses en fait. Et c'est d'ailleurs ça qui est très beau, c'est qu'à un moment donné ils se rendent compte, bah oui, en fait en allant juste préparer, en préparant 3 questions, on apprend plein de choses sur l'endroit où on est, sur le lycée, qui est vachement important. En plus, le lycée à cet âge-là. Donc ça c'était très chouette.
Il y a une posture, une voix, mais la radio, c'est aussi une écriture. On l'oublie souvent. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette écriture?
C'est une écriture, mais avant d'être une écriture, c'est aussi, à un moment donné, on est face aux gens. Et on enregistre la voix. Donc la manière de préparer les interviews va être la même que si on écrit un article. Mais là, moi, je les ai préparées aussi à cette posture qu'on a, qui est qu'on rencontre des gens et on va enregistrer leur voix. Donc il y a aussi une responsabilité qu'il faut avoir très vite en tant que journaliste radio. On demande aux gens s'ils sont d'accord. Et puis, il faut être présent. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir le nez sur ces questions. Il faut regarder la personne. Il faut vérifier ses réglages au niveau radio, etc. Et après, l'écriture radio arrive dans un second temps. On les a entendus là qui présentaient. Nous sommes des élèves de... C'est pas facile non plus, ça. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire comme ça. Et on est dans une écriture très parlée, en fait. Souvent, je leur expliquais, vous êtes trop scolaire. Donc, ils aimaient bien parce que, justement, ça allait un petit peu à l'encontre de ce qu'ils apprennent à l'école, d'une dissertation. Un journaliste radio doit être capable de faire passer l'information très facilement, de parler comme on parle tous les jours pour se faire comprendre par le plus grand nombre. Donc on revenait un petit peu en arrière sur leur basique, je dirais.
Et surtout, ce qui est très intéressant, et c'est une question qu'on se pose aussi à Campus Grenoble, il me semble, c'est de prendre en compte l'auditeur et le moment où
il
cette interview
Tout à fait.
Passera.
Et puis déjà, entre eux, les auditeurs, c'était déjà la classe en elle-même qui allait réécouter et de dire « Ah ouais, en fait, le travail du journaliste, c'est hyper intéressant parce qu'on rencontre des gens et c'est pas si dur que ça. Finalement, cette dame, elle parle de sa vie. » Et ils se rendaient compte que oui, bah, les gens, quand ils se mettent à parler, ils s'arrêtent pas, que finalement, récolter de l'information, c'est facile, mais le plus dur, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, en fait, ça permettait d'être dans le bain tout de suite de l'interview, de prendre du recul et de se dire « Ok, ok, voilà comment travaille un journaliste, surtout dans une approche, j'allais dire, comme ça, de finalement un petit peu plus documentaire. On va juste voir les gens autour de nous. »
Par l'apprentissage et par le faire, finalement.
Exactement.
Vous êtes aussi intervenu dans un internat avec une jolie création, une soirée à l'internat, avec 3 heures de rencontres. Je vous propose qu'on l'écoute maintenant.
Je m'appelle Valentine, j'ai 17 ans, je suis lycée Hector Berlioz depuis 2 ans. Je trouvais que ça pouvait être sympathique d'être avec des amis ou quoi et de nouer des liens avec beaucoup de monde autour.
Je suis Monsieur Rémi Dupont, je suis AED au lycée Hector Berlioz à la Côte Saint-André. Vous connaissez peut-être plus le nom de surveillant, donc je suis surveillant, je suis là pour faire respecter les règlements intérieurs, m'occuper des jeunes élèves, voir toute la logistique des classes et des professeurs. Jusqu'à maintenant, j'étais dans le privé, j'étais gérant de société. Ça m'avait pris beaucoup trop de temps. J'avais plus de temps pour moi, pour ma famille, mes enfants. Donc j'ai choisi un autre métier qui me laisse un peu plus de temps libre.
Le meilleur souvenir, c'est un peu les bêtises que je fais dans les chambres avec mes amis. Après, les pires souvenirs, c'est quand on est collé parce qu'on arrive en retard. Ça dépend, je lis des livres, des fois je descends et on fait des jeux avec les surveillants et d'autres internes, où la plupart du temps je regarde Netflix et je dors.
Enfin, ça arrive chaque année, mais c'est quand les résultats du bac ou du CAP ou du BEP sortent, que je vois les élèves qui viennent me voir et me disent « Ah, Rémi, merci grâce à toi » ou « Écoute, regarde, maintenant j'ai mon brevet, j'ai mon bac et tout. » Ça, c'est vraiment quelque chose de plus intéressant. Plus mauvais souvenir, c'est ben, lorsqu'il y a eu des accidents ou des gens qui ont dû quitter l'établissement, pour pas de leur faute, mais ou un accident ou un truc comme ça.
Donc là, vous l'entendez, on est vraiment dans l'ordre plutôt de la création sonore. On n'entend pas les questions qui sont posées, on n'est pas dans un modèle très journalistique, au sens où on se laisse mener. Et là, je me permettais ces petites expérimentations radiophoniques quand j'étais en petit groupe. Et là, c'était un soir, il était 20h, les jeunes sortaient du cadre scolaire, ils dormaient dans l'établissement, donc c'était intéressant. Et on l'a appelé une nuit à l'internat, non pas une nuit, pardon, une soirée à l'internat. Et pour eux, ça a été une vraie expérience d'aller chercher du son et de construire. Voilà, au niveau sonore, vous avez vu, si on le réécoute, on est embarqué. En fait, le micro nous emmène dans cet internat.
C'est la question de la place, effectivement, laissée au son aujourd'hui à la radio. où on fait beaucoup de contenu finalement.
Exactement.
Et parfois trop peu de son.
Bah, on peut être journaliste radio et ne jamais faire de son. Mm-hmm. Ça paraît paradoxal, mais en fait, on peut juste prendre du son les interviews, prendre en son les personnes qu'on rencontre, mais pas le reste. Et c'est vrai que moi, j'ai une approche plutôt aussi, en tout cas pas plutôt, parce qu'il faut toujours ces interviews, il faut du fond, il faut travailler ces sujets, mais avoir l'approche de l'ambiance sonore, qui est en fait essentielle dans un reportage.
Bien sûr, pour mener justement et pour faire que l'auditeur vienne avec nous, parce que c'est ça finalement qu'on fait aussi à la radio.
Exactement.
On se retrouve juste après Clémentine Métainier, on va changer de territoire, on va partir en Bièvre-Est, juste après The Moscovite Dance Band, Space Drone Machine. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 et on se retrouve juste après ça. The Moscovite Dance Band, Space Drum Machine, sur Campus Grenoble 90.8. En ce 1er juillet, vous êtes toujours dans l'apérophonie. Ce soir, nous recevons Clémentine Métainier, journaliste indépendante, qui vient de terminer une résidence journalistique en Bièvre-Valoire, territoire peu connu et pourtant si peu loin de Grenoble. On change donc de territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, direction la Bièvre-Est, et le Grand Lens, à 20 km seulement de la côte Saint-André.
Effectivement, là on est plutôt donc à l'est du territoire. Des interventions différentes sur ce territoire-là, puisque j'étais quasiment que dans des écoles primaires. Donc également un collège, mais surtout une implication dans 6 écoles et dans 9 classes. Pas facile hein, d'intervenir devant des tout-petits, alors c'est très chouette. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les enfants. J'aime bien la dynamique qui se crée dans des classes. Pas facile au sens où l'éducation aux médias est complexe. Parler du métier de journaliste, c'est pas facile. Avoir une approche radio, ça l'est encore moins, puisqu'il y a aussi cette notion d'équité qui est très importante dans les classes. Je l'ai vu pour les petits, il faut que chacun participe équitablement. Donc quand on essaye de faire des interviews, c'est pas évident, mais c'est chouette parce qu'ils ont un regard sur le journaliste. Voilà, eux, pour les enfants, c'est des antennes qui sont dans l'espace qui envoient l'information aux journalistes. Et ça, c'est génial. Et par contre, ils comprennent pas que ce soit nous qui, parfois, sommes quelque part, allons à la rencontre des gens. Ils ont du mal à comprendre comment un journaliste a l'information, en fait.
Alors on part direction bizarre. Pour commencer avec des cartes postales sonores, il me semble.
Oui, exactement. Alors avec cette classe, puisque un directeur et un instituteur dans cette classe qui avait déjà une appétence pour ce sujet de l'éducation aux médias. Il a l'habitude, le matin, il fait des petits tests d'actu avec ses élèves. Il a l'habitude de faire des petits reportages vidéo. Donc là, l'idée, c'était avec eux, donc un peu plus ambitieux peut-être que j'ai pu mener avec d'autres classes. Là, on est dans puisqu'on a fait des cartes postales sonores, donc c'est-à-dire aller à la rencontre du territoire. Comment le territoire parle au niveau sonore. Nous sommes dans une commune d'un peu moins de 900 habitants. Il n'y a pas de commerce, il y a juste une boulangerie. C'est aussi très révélateur hein, de ces territoires qui sont un petit peu périphériques, qui sont pour certains des villages dortoirs. Hein. Il y a beaucoup de villages où vivent des gens mais qui travaillent entre Lyon et Grenoble, qui veulent quitter la ville mais qui continuent à travailler en ville. Donc voilà, c'est aussi une réalité, c'était intéressant de m'en rendre compte. Et donc ces enfants vivent dans ces villages, animent ce village, mine de rien ils sont aussi un vecteur vachement de lien social. Et là, là ils ont eu le micro, ils ont été libres d'essayer d'inventer la manière de raconter leur territoire.
Les paroles du général de Gaulle se mêlent aux bourdons de Notre-Dame et aux cloches de toutes nos, les églises.
En ce moment, je suis en train de préparer mes objets à mettre au conteneur de tri. Donc, je mets les plastiques d'un côté, les verres de l'autre, et les cartons, etc. Je trie. Les matières premières qu'on met au tri, elles serviront à refabriquer d'autres objets. Donc, par exemple, avec des bouteilles en plastique, on peut fabriquer des pulls. Avec le verre, on peut fabriquer d'autres verres, et ça évite d'utiliser d'autres matières premières qui sont issues des ressources naturelles de la planète.
Alors, c'est grâce à ces cartes postales sonores, Clémentine Métainier, que vous avez réalisé avec des enfants en Bièvre-Est au cours de la résidence journalistique des 6 derniers mois, qu'on peut découvrir ce territoire assez incroyable, alors qu'on n'est pas si loin de Grenoble. Il y a certainement une spécificité, je pense, dans ces villages, qui est que les classes sont pluriniveaux.
Alors oui, alors là c'est pas le cas forcément à Bisonne, mais par exemple je suis allée dans la petite commune de Flachère. Flachère c'est vraiment, c'est très rural, très au milieu des champs, et là il y a que 2 classes dans cette école par exemple, donc les maîtresses gèrent 3 niveaux. Alors c'est intéressant, c'est autre chose hein, quand on n'a pas l'habitude d'aller dans l'école, dans l'éducation nationale, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça fonctionne aussi, et le boulot hein, que font les instits, chapeau je dois dire, parce que c'est pas évident. On va partir là à Colombes, Colombes c'est un peu plus grand que Bisonne, à peu près 1300 habitants. C'est aussi l'endroit où se trouvent les bureaux de la communauté de communes. On n'est pas loin de l'autoroute. Et là, on a travaillé plutôt, puisque la notion de territoire était peut-être plus complexe à aborder, on a quand même réussi à faire venir des gens, des habitants, des retraités qui sont venus parler notamment de leur travail d'agriculteur. Une autre classe que j'ai suivie a voulu faire un reportage de sa sortie en classe de neige. Donc la préparation en amont, des interviews, chaque groupe a bien géré qui est-ce qu'on va voir, comment on prépare les questions. En fait, c'est ça, hein, au cœur de le fil rouge de ma résidence, ça a été ça. C'est vraiment l'interview, comment on prépare une interview. Parce qu'en fait, c'est l'exercice qui rassemble le plus d'outils qu'on utilise dans le journalisme. On prépare, on fait des recherches, on rencontre des gens, etc. Et ensuite, on monte le son, on fait du montage. Donc voilà, un petit extrait de ce qui a été fait et j'étais assez fière de ce petit travail.
On est parti du 4 au 8 mars au Collet d'Alvar en classe de neige. Le trajet était long pour certains. 1h30 en bus, il y avait 59 élèves.
Nous venons de Colombes, dans la Bièvre-Est.
On a fait des rencontres toute la semaine. Vous allez les entendre.
On s'est fait accueillir par Thibaut Dussault, le directeur du centre.
Il nous a expliqué ce qu'on devait faire pendant la semaine.
Faire les lits, par exemple.
Ça fait 6 mois qu'il travaille au centre Jeanne Giraud.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Je dirais plutôt que c'est le métier qui m'a choisi. Ça fait 7 ans maintenant que je travaille dans les centres de vacances, que j'ai occupé tous les postes. Et il manquait juste le poste de directeur à mon actif. Donc voilà, c'est fait.
Combien pouvez-vous accueillir de personnes ?
On peut à l'heure actuelle accueillir environ 140 personnes à l'intérieur du centre.
Peut-on venir dans le centre l'été ?
Dans le centre l'été, il est fermé, malheureusement. Je pars du coup du côté de Oléron pour diriger un autre centre.
À côté du directeur, Yacine et Simon se présentent. Ils sont les animateurs du centre.
C'est eux qui nous réveillaient le matin et qui nous couchaient le soir. En plus, ils étaient rigolos.
Simon est le plus jeune, il a 23 ans.
Comment avez-vous fait pour faire ce métier ?
J'ai passé le diplôme qui s'appelle le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ce qui m'a permis d'être animateur.
Voilà, et ça dure comme ça pendant à peu près 8 minutes. Hein, mais ils ont expérimenté voilà, l'interview, le reportage radio, car c'est un véritable reportage radio.
C'est très chouette pour nous faire voyager aussi au-delà des territoires finalement, mais par d'autres visions. De petits en plus.
Surtout qu'ils n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de sortir de leur territoire, ces jeunes.
Est-ce que c'est la première fois qu'il y avait des résidences de ce genre ?
Alors, résidences journalistiques, oui, puisque c'est assez récent que la DRAC, la Direction régionale de l'action culturelle, pousse et invite les territoires à postuler et à faire ça. Effectivement, donc première fois, en tout cas dans le département de l'Isère, ça se fait beaucoup dans les Hauts-de-France, c'est pas nouveau. Plutôt dans le nord de la France, il y a une vraie culture, je dirais, enfin en tout cas, ça émane d'ici. C'est, parce que, voilà, on en reparlera, mais il faut des outils hein, pédagogiques, ça se construit, ces résidences-là, c'est pas évident, il faut aussi... avoir l'habitude de rencontrer un journaliste et c'est pas le cas. Par contre, il y a sur ces territoires-là qui sont assez loin hein, des équipements culturels, mine de rien, assez loin de l'accès à la culture et n'est pas évident. Il y a énormément de résidences culturelles qui sont menées et c'est d'ailleurs ce qui en fait un territoire extrêmement dynamique. Hein, la Bièvre-Valoire, en tout cas moi je l'ai vu, hein, j'ai rencontré beaucoup de personnes, de compagnies artistiques, de compagnies de chant, de compagnies de théâtre qui sont présentes. Donc c'est quand même très dynamique sur ce point-là.
Très bien. Je vous propose d'écouter une autre virgule sonore. C'est Paulette et son train.
Paulette et son train. Alors c'est intéressant. Là, il s'agit d'un autre groupe d'élèves. On est au collège du Grand Lens. C'est ce qu'on appelle l'école du blog. C'est assez connu sur le territoire. Ce sont des jeunes dans différentes classes qui se rejoignent entre midi et deux, qui sont très motivés pour faire du son, de l'image, de la photo. Donc on est dans le journalisme, mais vraiment dans le multimédia. Donc là, pareil, le sujet leur était donné. Je raconte mon territoire à travers les gens, à travers sa culture, à travers son histoire. Et là, les jeunes, ils ont été assez épatants parce qu'ils se sont saisis des gens qu'ils rencontraient. Et quand je revenais un mois et demi plus tard, ils me faisaient écouter. Et voilà, ça donne ça.
Au Grand Lens, il y a Paulette. J'ai eu la chance de la rencontrer. Elle a vécu toute sa vie dans cette ville. Elle et son mari ont travaillé à la gare du village.
Mon mari et moi, nous étions tous les deux à la SNCF. Moi, j'avais une barrière et mon mari était cheminot. C'était une petite maisonnette qui avait une barrière qu'on ouvrait que quand les voitures venaient, pour faire passer les voitures, s'il n'y avait pas de train d'annoncer. Mon mari travaillait sur les voies, il était chef de chantier, il avait 32 bonhommes sous ses ordres et il travaillait souvent dans le train-parc. C'est un train qui voyage... avec les cheminots, avec mon mari, quoi, et ceux qui travaillaient avec lui, il y avait dedans leur cuisine, leur cuisinier, leur chambre, leur salle de bain, et ils mangeaient et ils allaient jusqu'à Paris et quelquefois dans le midi, jusque dans le midi avec, pour faire les gros travaux.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission radio Raconte-moi Beaurepaire, nous vous proposons de découvrir notre commune, la commune rurale de Beaurepaire, en Isère. À travers l'histoire de Beaurepaire et les initiatives locales actuelles, vous allez découvrir une ville aux identités multiples.
Mais commençons par dresser un bref portrait de la ville. Beaurepaire est une ville de l'Isère. Elle se situe en pleine campagne au milieu des champs de maïs. Elle se trouve aux portes de la Drôme, entre Grenoble et Lyon. C'est une petite ville de 5000 habitants, chef-lieu d'un canton de 15 communes. Beaurepaire est une ville de l'Isère qui compte 84 associations sportives, culturelles et de solidarité, 200 commerçants, artisans et professions libérales et environ 1400 salariés.
Beaurepaire, c'est tout d'abord une ville au passé riche. L'éclairage électrique public apparaît à Beaurepaire au XIXe siècle. La ville devient pionnière dans ce domaine. Je cède la parole à Fanny, Nadir, Meliké et Dalila sur ce sujet.
À Beaurepaire, le 14 juillet 1886 ne fut pas le jour de la fête nationale ni le jour des feux d'artifice.
Mais qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ce fut l'inauguration du réseau électrique de la commune de Beaurepaire.
L'homme à l'origine de cet événement est Louis-Michel Villaz, c'était lui-même un Beaurepairois.
Cette ville fait partie des toutes premières villes de France à être éclairée.
Voilà, alors sans transition, nous sommes partis à Beaurepaire, le troisième territoire, qu'on appelle d'ailleurs territoire de Beaurepaire, qui est le plus au nord, le plus proche de Lyon. D'ailleurs, effectivement, les gens vont plutôt à Lyon plutôt qu'à Grenoble. Là, vous avez écouté une émission de radio en bonne et due forme qui a été faite par la classe de 4e que j'ai suivie, donc depuis le mois de janvier. Et si on a réussi à faire cette émission de radio, c'est aussi parce que la professeure entourée de la documentaliste ont vraiment été très actives pour porter ce projet, c'est-à-dire bénéficier ou profiter de mes interventions expertise pour préparer les interviews, les emmener aussi quand il fallait faire le terrain. Et ensuite, l'écriture, les guider à distance. Voilà, ils m'envoyaient leurs textes, je les corrigeait et il tenait vraiment à ce qu'on fasse cette émission et qui en fait a très bien marché. On l'a fait la semaine dernière, ils étaient debout en groupe très 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 préparés et c'est pas mal, vous avez entendu, hein, c'est comme nous là au début de l'émission, générique, jingle, voilà, on a, et ça leur a permis de découvrir énormément de choses sur leur territoire parce que Beaurepaire, voilà, c'est l'éclairage public, une des premières villes de France, c'est un cinéma aussi, un des premiers cinémas de France, enfin, y a une sacrée histoire, quand on va là-bas on dirait pas parce qu'on se dit bon, voilà, c'est Beaurepaire, et ben, il n'empêche qu'ils se sont rendus compte que finalement ils avaient une certaine fierté à vivre ici après ce travail de reportage journalistique.
Et une fierté historique aussi puisqu'on va écouter une carte postale sonore qui fait référence à 1944.
Oui, alors ça c'est intéressant parce que en parallèle de cette classe de 4e avec qui j'ai travaillé, j'étais également à l'école qui s'appelle l'école La Poya de Beaurepaire et j'ai travaillé dans toute l'école, dans les 6 classes. Donc avec chaque professeur, nous avions un thème en lien avec le territoire, alors les vieux métiers, les rues, les avenues, on a travaillé sur les commerces, on a travaillé aussi sur les lieux exceptionnels de Beaurepaire et sur l'école d'autrefois et on est sorti des petites cartes postales. Alors là, on était voilà, vous imaginez 25 élèves par classe voire plus, fois 6. Donc c'était un vrai chantier mais finalement, on a réussi à sortir des petites cartes postales.
Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger.
Nous nous trouvons actuellement à Beaurepaire, plus précisément dans la rue du 5 août 1944.
L'histoire du 5 août 1944.
Je connais absolument rien.
Cette rue est célèbre à cause des événements tragiques qui s'y sont passés vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, vers 10h, le 5 août 1944, des rumeurs se font entendre à Beaurepaire.
Les Allemands arrivent par Jarcieux, ils se dirigent vers nous.
Aussitôt, on demandera aux résistants de vite s'enfuir, car Beaurepaire est un repère connu pour abriter une troupe de résistants.
Mais Beaurepaire sera très vite envahi par 3 colonnes qui proviennent de Jarcieux, Lens-Lestang et Roisbon.
Ce jour-là, 53 Beaurepairois seront faits prisonniers et 4 hommes seront exécutés par les Allemands, dont Camille Baruel, Louis Fiard, Robert Hoffner et Jean Pêcheur. Une plaque commémorative qui nous permet de ne pas oublier ce triste jour et visible placif panier.
C'est quel monument?
Celui qui est là-bas. Que savez-vous sur son histoire?
Pas grand-chose.
Elle rappelle que ce jour-là, 4 jeunes hommes ont perdu la vie juste parce qu'ils entendaient préserver la liberté de tous.
C'est Sandy, Lucas, Brianna et Kylian pour la Kids Radio.
Bonjour, nous sommes les élèves de CE2 de l'école La Poya de Beaurepaire.
Nous avons travaillé cette année avec une journaliste qui s'appelle Clémentine Métainier sur l'école autrefois et sur notre ville dans le passé.
Et nous avons interviewé des personnes et réalisé des reportages.
Bonjour.
Nous allons vous présenter des jeux de l'ancien temps.
Nathan, sais-tu qu'on a joué aux osselets à l'ancien temps?
Non.
Monsieur Canabi de la maison de retraite va t'expliquer.
L'osselet, on jouait avec des os. Des os qui étaient une partie du pied du cochon. Alors, qui était joli comme un osselet. Alors, on jouait par terre, on lançait un. Et après, avant que tu... On l'attrapait, mais on lançait de l'autre côté. Hop, comme ça. Tu vois, t'as déjà joué, toi, non? Tu as joué? Ouais, avec du plastique, quoi. Ou avec des billes. Mais l'osselet, nous, c'était du vrai os qu'on avait. Ouais, dans le pied du cochon.
Méline, sais-tu qu'on jouait au biais à la récré?
Je savais pas, je ressortirais d'ici mon bête.
Ethan, sais-tu qu'on jouait à la corde à sauter?
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. C'était la dernière petite carte postale extrait sonore, extrait du travail de Clémentine Métainier avec des groupes d'enfants lors de sa résidence journalistique des 6 derniers mois sur le territoire Bièvre-Valoir. Alors Clémentine, dans tout ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, tout et en même temps une infime partie, on entend très bien que tous ces territoires, malgré le fait qu'ils sont sur un même ensemble et un même bassin de vie, sont extrêmement différents. Comment est-ce que vous avez géré avec cette difficulté ?
Oui, différents au sens, comme tout territoire de vie, on a des différences culturelles, des différences historiques, des différences politiques, on n'en a pas parlé, mais en fait on est aussi exposé à ça. Au niveau culturel, tout est quand même c'est compliqué de faire des projets, mine de rien, surtout en milieu scolaire, il faut le dire, ça n'est pas évident, surtout que moi je n'avais pas forcément l'habitude de le faire. Donc la difficulté, elle est là, c'est qu'en fait, un journaliste, en tout cas moi, j'ai besoin de bien connaître mon territoire, j'ai besoin d'aller effectivement, de passer du temps avec les gens pour le connaître. Là, on a manqué de temps parce que ça a commencé en janvier. Vous avez vu la quantité d'interventions faites. Et en même temps, c'est ça qui fait sa richesse, puisque finalement, intervenir dans plein d'endroits fait découvrir aussi ce travail de journaliste, d'une journaliste qui vit à Grenoble, qui intervient. C'est intéressant. Après, c'est toute la question quantitative, qualitative, passer plus de temps dans des écoles pour faire des projets à plus long terme. Il n'empêche que nous avons quand même réussi la plupart du temps à faire sortir des petites pastilles sonores, parce que c'est le but. Comme un article, on arrive à faire des petites choses sonores qui vont être diffusées sur les sites de l'école, les sites des mairies, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je pense que la difficulté, elle est aussi sur le fait que un journaliste n'a pas vocation à intervenir comme un professeur. En tout cas, moi, je ne suis pas formée à ça. J'interviens plutôt comme quelqu'un qui arrive dans l'action, de proposer un projet, un technicien, je dirais. Donc c'est là-dessus que peut-être ça doit évoluer, je dirais, sur les mentalités ou sur le travail collectif. C'est préparer en amont, parce que vous avez vu la complexité, il y a le travail en amont, il y a le travail pendant, sur le terrain, d'aller rencontrer des gens, et puis après, qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière ? Moi, c'est aussi ce à quoi je suis confrontée tous les jours dans mon métier, on a beaucoup de matière, qu'est-ce qu'on en fait ?
Effectivement, il semble aussi que l'importance doit être de mêler le programme éducatif dans sa globalité avec le travail que vous effectuez sur les territoires.
Exactement, c'est ça qui. Ou alors faire venir un journaliste pour peut-être faire du reportage sur le territoire et puis ensuite intervenir pour le faire écouter. Il y a plein de manières de faire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui de plus en plus. Il y a le CLEMI, il y a France TV Éducation. C'est quand même aujourd'hui des ressources. Et aussi pour les professeurs. Je pense que c'est pas aux journalistes absolument d'intervenir pour parler du journalisme ou de l'éducation aux médias. Je pense que de plus en plus, ça va devenir aussi la qualité à avoir aussi pour les professeurs, ou en tout cas d'être éduqués eux-mêmes à ça, sensibilisés à l'information, parce que ça passe par eux, en fait, à l'école, de lire l'information, comment la lire, etc. Je pense que c'est très important.
Merci beaucoup Clémentine Métainier d'avoir été avec nous pour cette restitution finalement, puisque on est fiers à Campus Grenoble de pouvoir contribuer à diffuser même une infime partie de ces travaux sur des territoires qui sont loin et en même temps si près et si différents des nôtres. C'est aussi pour nous l'occasion de montrer une pluralité sur un département. Donc merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
D'être venu nous parler de tout ça. C'est très très intéressant. Vous pouvez retrouver, quant à vous, chers auditeurs, le podcast de cette émission sur notre site www.campusgrenoble.org. Elle sera rediffusée demain, mardi 2 juillet à 8h, comme toutes les apérophonies, sur campusgrenoble.org, mais aussi sur le 90.8. D'ici là, on vous souhaite une agréable soirée et bonne écoute sur les ondes de Campus Grenoble 90.8.